Vous écoutez
RMC. RMC.
C'était vraiment, c'était nul. C'était nul sur tous les, de tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol.
Avec Christophe Cessieux, il en a ras-le-bol, c'est tous les samedis à 10h50, il vient piquer sa crise. À vous de nous dire les GG ensuite, si c'est dû à la crise de la soixantaine, ou si c'est normal, s'il a raison. Christophe, le sujet du jour ?
Je vais vous parler de Tadej Pogacar, je vais vous parler d'Antoine Dupont, et je vais revenir sur ce petit tweet qui a fait polémique en début de semaine, produit par quelqu'un qui nous est cher, hein, Marc et à moi. Je veux parler de Cyril Guimard, notre druide vénéré, qui lundi, comme ça, en pleine paix, a déclenché un véritable séisme, en osant comparer Tadej Pogacar à Antoine Dupont, en l'occurrence le meilleur cycliste de la planète et son équivalent en matière de rugby. Deux grands champions qui, pour Cyril, eh bien, ne sont pas traités sur un pied d'égalité. D'un côté, vous avez Poggi, le sulfureux Slovène, celui dont la moitié de la population, et je suis sans doute encore loin de la vérité, pense qu'il ne doit ses performances extraordinaires qu'à des produits interdits et à des vélos électriques. Et puis de l'autre, Antoine Dupont, notre star française immaculée, dont les éclairs de génie sur le terrain ne sont dus qu'au travail et au bon lait de la ferme de ses parents à Castelnau-Magnoac. Et dans cette différence de traitement qui a agacé le druide, qui, sans doute de manière un peu maladroite, a laissé entendre que le dopage n'était pas le fait que du cyclisme et qu'il fallait ouvrir les dossiers du rugby et d'autres disciplines. Alors, loin de moi, hein, vraiment l'idée de penser qu'Antoine utilise des produits illicites qui expliqueraient ses performances fantastiques sur les terrains. Pour moi, ce garçon est un génie du ballon ovale, mais Pogacar aussi est un génie. On n'a jamais vu de garçon aussi fort en cyclisme depuis Eddy Merckx dans les années 70. Et j'ai du mal à admettre, moi aussi, la différence de traitement entre les stars du vélo et celles d'autres disciplines. Un coureur qui gagne, il faut le savoir, est toujours suspect, sinon coupable. C'est comme ça. C'est la faute à l'histoire du vélo, la faute à ces scandales à répétition qui ont alimenté la chronique entre 1998 et 2010. Et à chaque fois qu'un Contador, qu'un Froome, qu'un Vingegaard ou qu'un Pogacar gagne, il est obligatoirement dopé. D'autant que tous ces coureurs sont étrangers, pas un Français là-dedans. Et ça, c'est une circonstance aggravante, messieurs, dames. Un Virenque ou un Jalabert, à leur grande époque, personne ne les suspectait d'utiliser des produits dopants. Je me souviens même qu'en 1998, au moment de l'affaire Festina, les voitures de presse étaient victimes de jets de pierre de la part du public qui ne supportait pas que les journalistes accusent les héros. Oui, les Français ne peuvent pas se doper. Et ceux qui sont pris la main dans le pot de confiture, on leur trouve toujours des circonstances atténuantes. C'est la faute à pas de chance, c'est la faute aux soigneurs, ou même aux compagnons de certains athlètes qui leur ont donné des compléments alimentaires ou transmis par contact corporel intime certains de leurs produits. Alors moi, je veux bien tout entendre, je veux bien accepter les explications des uns et des autres, et penser que nos athlètes, et pas que les nôtres d'ailleurs, sont des victimes du système et des coupables, finalement, innocents. Mais ce qui m'agace, c'est que dans le vélo, on change le paradigme en faisant des innocents des coupables en puissance. Alors oui, je suis d'accord avec vous, les contrôles antidopage ne servent pas à grand chose et toutes les grandes affaires sont issues d'enquêtes policières ou journalistiques, oui, mais là encore, et malgré la présence d'une unité de gendarmerie spécialement dédiée à la lutte antidopage qui est présente tous les ans sur les routes du Tour, on n'a encore rien trouvé de suspect concernant Pogacar. Le problème, eh bien, il vient sans doute de l'essence de ce sport où tout est mesuré, calculé, on connaît le nombre exact de watts produits à la seconde par un coureur, et c'est vrai que les données de Pogacar donnent le tournis. Mais vous ne croyez pas, vous, qu'il faudrait aussi peut-être s'intéresser à certains golgottes du rugby qui prennent plusieurs kilos de muscles en quelques mois, qui avancent à 2000 et qui provoquent des blessures gravissimes à leur vis-à-vis lorsqu'ils leur rentrent dedans? Vous trouvez que le rugby des années 2000 ressemble à celui des années 70? Regardez un peu les différences de physionomie entre les avants bedonnants des années 70 et les athlètes hyper musculeux que l'on trouve aujourd'hui dans les vestiaires des Springboks, par exemple. Et vous penserez certainement comme moi qu'il faudrait aussi s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres disciplines, et sinon soupçonner, tout au moins se poser des questions et ne pas tout avaler, tout cru sans broncher. Le cyclisme et le rugby sont mes deux sports préférés, j'adore autant l'un que l'autre, mais je doute raisonnablement autant des performances des stars de l'un que de celles des stars de l'autre. N'oubliez jamais ce qui s'est passé en 1995, souvenez-vous de tous ces rugbymen sud-africains en pleine forme, en pleine jeunesse, héros de la nation arc-en-ciel, vainqueurs des All Blacks en finale de la Coupe du Monde, et qui pour la plupart se sont retrouvés quelques années plus tard atteints de maladies incurables alors qu'ils n'avaient même pas 30 ans. Oui, il faut douter de tout et de tous, s'enthousiasmer des performances des uns et des autres, mais surtout ne pas faire le tri entre les bons sports et le sport de dopé qu'est le vélo.
Merci Christophe Cessieux. La crise de la soixantaine. Marc, quelque chose à ajouter ou pas ?
Rien à ajouter.
Totalement d'accord, tu bois les paroles.
Bien sûr.
Ça t'agace qu'on doute de Pogacar ?
Et qu'on doute de tout et de tous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une culture du doute sur le cyclisme qui n'existe pas dans d'autres sports. Et à chaque fois qu'il y a eu quelques petites prises de parole sur ces sujets-là par rapport à d'autres sports, on est tout de suite montré du doigt. Donc il y a une différence de traitement qui existe, c'est indéniable. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même traiter quand il y a à traiter.
Ok.
Fred. Il y a une différence de traitement et je pense qu'elle est malheureusement assez logique. L'historique fait que c'est assez normal, mais en même temps, c'est vrai qu'on devrait se poser des questions sur d'autres sports et que j'en ai marre qu'on dévalorise les performances de Pogacar. Attendons de savoir ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est un super champion extraordinaire qui me fait aimer le vélo. Attendons de voir si...
En NBA, il n'y a pas de sujet comme ça. Il n'y a pas de doute.
Alors déjà, c'est une ligue privée. Donc tu fais un peu ce que tu veux, par principe.
Ça change
nettement la donne. Et je me rappelle qu'à une époque, la seule chose qui était repérée, ou en tout cas recherchée, c'était la weed. Donc voilà. Tu te dis que la weed, en plus, ça ne te sert pas grand-chose au basket. Hein.
Normalement, non. Non,
donc, il y a d'autres choses certainement qui sont prises. Mais encore une fois, une ligue privée. Et personne n'a rien à dire, curieusement, sur le basket. Ben ouais, c'est un vrai problème aussi.
C'était la crise de la soixantaine, signé Christophe Séchu, à retrouver évidemment en podcast comme tous les samedis. Merci mon cher Christophe. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport ici au Mondial de l'Automobile. Il est 10h56, vous écoutez RMC et nous parlerons vélo. Les équipes françaises, Marc, sont-elles condamnées? Oui, on ouvre le dossier dans quelques instants. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mondial de l'Auto.